Nous continuons notre série intitulée Valeurs. Et puis, dans cette série, on veut découvrir qu'est-ce qui est sur le cœur de Dieu, les valeurs qui sont sur le cœur de Dieu. Autant des valeurs qui peuvent être des valeurs morales, spirituelles, mais aussi ce qu'il y a de la valeur. Donc, je joue un peu sur les deux tableaux, des valeurs, comme on les appelle, et ce qu'il y a de la valeur, et qui définit aussi le royaume de Dieu. Alors, je suis vraiment. Pour ma part, enthousiasme, et j'espère que vous le serez aussi, de pouvoir découvrir ce qui a du poids aux yeux de Dieu. Parce que personnellement, ça m'aide. Ça m'aide à avancer, ça me guide, ça me montre qu'est-ce qui devrait aussi être sur mon cœur. Si je connais ce qui est sur le cœur de Dieu, alors ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Alors, on n'est pas tous d'accord sur nos valeurs. J'ai découvert quelques valeurs sur le cœur d'une maman que j'ai beaucoup de plaisir à vous montrer. Aujourd'hui, voilà les valeurs que je compte transmettre à mes enfants. Maman a toujours raison, la grasse matinée, l'importance de l'apéro, l'amitié c'est sacré. Ben oui, il faut des amis pour faire des apéros. Voilà, donc c'est une maman qui m'a confié ça vraiment confidentiellement dans mon bureau. Non, 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 c'est pas vrai. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes valeurs, ça c'est certain. Alors, il y a 2 semaines, nous avons regardé aux valeurs présentes dans la lettre de Philémon, valeurs qui ont dû vraiment bousculer Philémon. Si vous vous souvenez, vous pouvez bien sûr réécouter ce message. Donc, on avait vu la valeur du pardon, l'accueil et l'amour sans condition, la dignité humaine, l'égalité, et croire dans le potentiel d'autrui. Et puis, j'avais ensuite relié ça avec notre ADN de l'escale que j'avais aussi bien expliqué à la fin du mois d'août. Donc un lieu de restauration, c'est aussi en lien avec la valeur du pardon, un lieu d'équipement, c'est en lien avec le potentiel, un lieu de justice sociale, c'est en lien avec la dignité, puis un lieu familial, c'est en lien avec l'amour et l'accueil. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont pu mettre en pratique? Alors, je ne m'attends pas à avoir des mains levées, mais est-ce que vous avez repensé à ces valeurs? Est-ce que vous les vivez? En tout cas, je nous y encourage, évidemment. Alors ce matin, mon titre est celui-ci, Il était une fois. Et on va lire quelques versets dans 1 Pierre, les versets 6 et 7. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de S, hein, si jamais. Ce n'est pas que j'ai fait une faute de frappe, c'est que j'ai fait un jeu de mots. Voilà, non, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un vient après. Tu sais qu'il y avait un S? Ça m'arrive qu'il y ait des fautes à part ça. Vous pouvez quand même venir me dire si vous voyez des autres fautes, comme ça je corrigerai. Alors, 1 Pierre 1, les versets 6 et 7, on lit ensemble dans la version Summer. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Alors Pierre commence par dire, voilà ce qui fait votre joie. Il y a quand même de la joie là, ça va. Il parle donc de la joie de l'héritage qui est promis à ceux qui ont cru en Jésus, c'est juste avant, donc à ceux qui sont nés de nouveau. Il dit au verset précédent que cet héritage, il ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté, et qu'il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Donc ça, c'est la joie. Ça, c'est l'héritage promis. Et puis, il y a l'héritage, mais il y a ce qui vient maintenant, ce qu'il y a entre deux. Parfois, on préférerait rester la tête dans les nuages, la tête à rêver le paradis, à imaginer l'héritage que nous allons avoir dans le royaume de Dieu. Mais il faut ratterrir, ou en tout cas vivre les deux réalités. Il y a une suite dans ce texte. Il faut que vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves. On aime moins ça. Hein? Il y en a qui sont contents? Bon, j'espère qu'à la fin, vous serez un peu plus contents. On se réjouit d'après, hein? Ouais, je suis d'accord. Mais bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est pour un temps. C'est passager. Ce temps, il n'est pas défini, mais le grec laisse dire que c'est pour un temps relativement court. Alors bon, on sait très bien que le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Donc, je ne me prononce pas plus, mais c'est pour un temps. Et Pierre s'adresse ici à des jeunes convertis, des jeunes qui venaient de se convertir, qui venaient de renoncer à leurs idoles, à leurs mauvais comportements. Ils venaient de se tourner vers Jésus. Donc, ils faisaient face à de nombreuses épreuves. Et Pierre parle au chapitre 4, verset 12, il parle même de la fournaise de l'épreuve. Intéressant, la fournaise de l'épreuve, ça fait très envie ça, hein? Ça doit être chaud. Bon, et puis, donc ces personnes, ces jeunes convertis, donc jeunes, c'est pas jeunes en âge, jeunes nouveaux convertis, eh bien, ils avaient une forte pression sur eux, ils avaient été rejetés de leur famille, ils étaient mal vus du gouvernement, et puis y a, donc la pression sociale était là. Et donc, ils faisaient vraiment face à des persécutions grandissantes, donc insultes, maltraitances physiques, etc. Et ces nouveaux chrétiens étaient attristés. Ils étaient aussi soucieux, même craintifs. Et certains pensaient se venger, puis d'autres hésitaient à tout abandonner. Je laisse tomber, c'est trop dur. Je retourne à ma vie d'avant. Bien sûr, c'est exactement ce que l'ennemi voulait. Alors Pierre, il va commencer à leur dire, bah, c'est vrai, il y a un prix, mais il y a un héritage. Il commence comme ça, il dit, mais il y a une joie, il y a un héritage, il y a quelque chose pour vous. Vous êtes attristés pour un peu de temps, mais il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Et ce message, il est pour nous aussi. Nous pouvons être tous dans la joie à l'idée de l'héritage promis, mais tous, ici-bas, nous sommes confrontés à des épreuves en tout genre. Si on en faisait la liste, elle serait probablement longue ici ce matin. Mais c'est la suite qui va m'intéresser. En faisant référence à ces diverses épreuves, Pierre va nous dire que les épreuves éprouvent notre foi. Les épreuves, elles montrent la valeur de notre foi. Donc, aux yeux du Seigneur, cette foi éprouvée, elle vaut plus que l'or. La foi éprouvée vaut plus que l'or. Le fruit de l'épreuve, le fruit de ce moment de tristesse, de découragement ou de souffrance, c'est une foi éprouvée. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de 5 différents types de foi. Pour ça que mon titre, c'est « Il était une foi ». Mais avant tout, j'aimerais juste redéfinir un tout petit peu qu'est-ce qu'est la foi. Ce n'est pas une étude bien complète, mais juste, j'avais déjà envie de rappeler que foi et fidélité, c'est un seul mot. Dans l'hébreu et dans le grec. La foi et la fidélité, c'est intéressant parce que c'est ce qui est hyper important sur le cœur de Dieu, entre la relation entre Dieu et les hommes. La foi et la fidélité, ça, c'est présent dans toute la parole de Dieu. Et c'est le même mot. La foi, c'est croire. La foi, c'est se confier en, faire confiance. C'est s'attendre à, c'est espérer en. Et dans le Nouveau Testament, la dimension de la fidélité, elle est moins présente parce qu'en fait, Jésus lui-même va déclarer ceci à plusieurs reprises, entre autres Marc 9, 22, « Ta foi t'a sauvé ». Et quand il dit « Ta foi t'a sauvé », ben, a priori, il ne tient pas compte de la fidélité de la personne. On voit que c'est le fait de croire qui est important. Donc, la fidélité est moins présente. Et on découvre que la foi, alors, va s'appuyer sur la grâce et la fidélité de Christ lui-même. C'est lui, c'est Christ qui devient l'incarnation de la foi et de la fidélité. Je vais essayer de vous expliquer ça avec ce texte, Galates 2, 23, 26. « Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Hébreux 12:2 nous dit encore qu'il est l'auteur, Christ est l'auteur de notre foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Vous connaissez certainement le célèbre évangéliste Smith Wigglesworth, qui est mort il y a bien longtemps, mais si vous remarquez, il a eu une belle vie hein, pour son époque. Et il a dit ceci que j'aime beaucoup, « Jésus vient vivre sa vie de foi en nous et être pour nous tout ce dont nous avons besoin. » J'aime bien cette dimension-là. C'est Jésus qui vient vivre sa vie de foi en nous. Alors oui, c'est bien Jésus qui a tout accompli. C'est Jésus qui est le fidèle. Et c'est cela qui nous permet d'obtenir le salut par la foi. C'est donc en lui qu'on place notre foi, c'est sur lui que nous fixons nos regards. Alors maintenant, on va regarder à 5 types de foi. Ce n'est pas exhaustif. Le premier type de foi, il était une foi de circonstance. La foi de circonstance, c'est une foi opportuniste. Je crois car j'ai un besoin. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une foi opportuniste ? Je crois car j'ai un besoin. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'une parole maintenant. J'ai besoin d'un changement immédiat. Puis je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour ça. S'il faut même croire en Jésus, alors pas de problème, pourvu qu'il y ait un miracle. C'est donc circonstanciel. Il n'y a pas vraiment, il y a pas d'avant puis il n'y a pas d'après. Et finalement, dans la parole, on voit ça. Dans les évangiles, on voit des gens qui suivent Jésus pour être touchés, pour avoir un miracle. Mais on ne les revoit pas après. Jésus a quand même béni, Jésus a quand même eu compassion. Il n'y a eu pas de changement. Une foi de circonstance. Deuxième type de foi, une foi théorique. Une théorie, évidemment, devrait se vérifier dans la pratique. Mais beaucoup de chrétiens, sans jugement, se suffisent d'une foi théorique. Et parfois, c'est tout ce qu'on a. On commence par une foi théorique. On croit en ce Jésus qu'on ne voit pas. On croit qu'il a fait, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous, qu'il a pris nos péchés. Mais on ne l'a pas expérimenté, ce Jésus. Ça reste théorique. Et puis, quand vient l'épreuve, alors là, c'est plus compliqué. Notre théorie va être secouée. Donc je peux affirmer qu'est-ce que c'est la foi, je peux affirmer croire jusqu'au jour où ma foi doit passer par les actes. La théorie doit se vérifier dans les actes. La foi devrait nous amener aux actes. D'ailleurs, l'apôtre Jacques va dire ceci, « Montre-moi ta foi sans les œuvres ou sans les actes, et moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Montre-moi ta foi sans les actes, et moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Donc la foi, en théorie, elle a des limites. Et à un moment donné, il faut qu'elle soit vérifiée. Il faut que cette foi soit confrontée à la réalité. Il faut que cette foi s'incarne dans notre réalité. Il faut qu'elle nous pousse à l'action. Elle ne peut pas être passive, la foi. Ou elle ne devrait pas être passive. Troisième type de foi. Oh, vous êtes encore là ? Il était une foi contrôlée. Une foi qui va jusqu'au point que je décide, jusqu'au point que j'accepte. Donc je mets ma confiance en Jésus, je reçois ses promesses, j'avance, je m'accroche fermement à ses promesses, jusqu'à ce que je vois un signal contraire aux promesses de Dieu. Lorsque mes circonstances ne correspondent plus exactement avec les promesses de Dieu, alors là, je lâche. Je me tourne vers autre chose, je cherche une autre solution, je place ma confiance ailleurs. Par exemple, vous n'avez plus assez pour finir le mois. Ça arrive. Vous savez qu'il s'en occupe, il est le Dieu qui pourvoit. Mais oui, il ne faut pas que je m'inquiète, j'ai reçu, il va s'en occuper. Vous accrochez, puis vous voyez le frigo se vider. Non, mais Seigneur, il va pourvoir, je sais, j'ai reçu. Puis à un moment donné, la crainte prend le dessus. Puis finalement, on cherche des solutions humaines. on prend le téléphone. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien faire. Mais on ne laisse pas l'action de Dieu. On prend le dessus sans le consulter, sans dépendre de lui. On commence à chercher par nos propres forces. Ça, c'est une fois contrôlé. Ça va un bout, puis après, on reprend nos sécurités, nos plans B, nos solutions humaines. Je crois qu'on est tous parfois comme ça. Hein, pour moi, c'est le plus dur. C'est d'avoir cette foi dans les promesses de Dieu jusqu'au bout. C'est de croire jusqu'au bout sans que j'interfère avec ce que Dieu veut faire. Et oui, bien sûr, des fois, il nous met à l'action, dans l'écoute de Dieu, puis on dit, OK, il me demande d'agir, il me demande de faire cela. Hein, comme je dis souvent, pour ceux qui cherchent un travail, c'est rare qu'il faille rien faire. Ça peut arriver. Ça peut arriver que l'offre vous tombe du ciel, vous tombe sur la table, et puis que ce soit ça. Mais souvent, on doit faire des demandes. Donc, c'est toute cette dépendance à Dieu. Mais voilà, vraiment faire confiance pleinement jusqu'au bout, sans contrôle. Alors, la foi contrôlée. Quatrième type de foi, il était une foi d'action. Une foi d'action, c'est le type de foi qui te fait bouger. C'est ce fameux pas dans le vide. Moi, je pense toujours à Indiana Jones 3, là, où à un moment donné, il doit récupérer le Graal, tout ça, là. C'est vieux, hein, maintenant. Et puis, à un moment donné, il doit faire un pas. Puis au moment où il fait le pas, il y a le pont qui apparaît. Ça, d'un coup, pouf. Et puis, ça, il y a de la fumée, là. Tcha. Moi, je pense souvent à ça. C'est un pas dans le vide. Il nous demande de faire le pas, mais il faut vraiment que je le fasse. Il ne faut pas que je fasse... vraiment, pff, puis là, d'un coup, on tombe sur du solide. Ça c'est la foi en action. Tu ne vois pas où tu vas poser le pied, mais quand tu arrives, il y a du solide. C'est la foi qui te met à l'œuvre. Tu prends des décisions avec cette confiance qui est là et cette foi qu'il s'en occupe. Tu pries avec cette foi qui déplace des montagnes. Rien n'est impossible à Dieu. Ta foi te pousse à prier pour les malades. Ta foi conduit tes choix. Ta foi te fait voir autrement et agir au quotidien. Une foi qui te pousse à l'action. Super, alléluia. C'est bon ça, hein ? La foi d'action. Et puis, un cinquième type de foi, il était une foi éprouvée. Une foi qui a une valeur inestimable devant Dieu. C'est une foi qui est vérifiée par les circonstances, par les épreuves et les souffrances. Ce n'est pas la foi dans l'épreuve, mais écoutez bien, ce n'est pas la foi dans l'épreuve, mais c'est l'état de la foi après l'épreuve de la fournaise. J'aime bien faire cette petite différence. Ce n'est pas seulement la foi dans l'épreuve, parce que dans l'épreuve, on peut avoir une foi contrôlée. On peut aller un bout, et puis on dit « Ah, c'est bon, j'ai la foi », puis finalement, on lâche. Mais c'est l'état de la foi qui est après. C'est une foi qui a été éprouvée. Les gens qui ont vécu des épreuves importantes en ressortent toujours changés. Et lorsqu'ils parlent de leur foi, il y a une grande profondeur, il y a une sagesse. On sent que c'est du vécu et que ce n'est plus de la théorie. Ce n'est plus une foi théorique. Et ça change tout. Oui, je l'avais vu là. C'est une foi vérifiée au travers des circonstances, des épreuves et des souffrances. Ce n'est pas la foi dans l'épreuve uniquement, c'est l'état de la foi après l'épreuve de la fournaise. Oswald Chambers aussi, un vieux monsieur décédé, mais lui, il a eu une vie un peu moins longue, n'est-ce pas ? Ça arrive, mais ça ne l'a pas empêché. Il est souvent comparé à l'apôtre Paul. C'était un gars qui a vécu à fond pour Dieu et il laisse un sacré témoignage dans ses 42 ans. Alors, c'est facile comme tout de se prélasser dans un fauteuil et de déclarer haut et fort « Oui, je crois que Dieu fera ceci ou cela ». Vous êtes d'accord, c'est facile. Hein ? C'est de la crédulité et non de la foi. Mais si je dis « Je crois que Dieu pourvoira à tous mes besoins » et qu'ensuite je suis à sec, plus d'argent, plus de perspective, c'est l'histoire de tout à l'heure, plus d'avenir, vous pourrez alors constater si je supporte vraiment les épreuves de ma foi ou si je fais marche arrière et place ma confiance dans autre chose. C'est l'épreuve de notre foi qui est précieuse. Chaque fois que nous réussissons à traverser l'épreuve, de grandes richesses sont déposées dans notre compte en banque céleste et il nous sera possible d'y avoir recours quand viendra la prochaine épreuve. Amen. Donc notre foi en Christ a de la valeur, évidemment. Toute notre foi, la foi a de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que votre foi ce matin, si, tant qu'elle n'est pas éprouvée, elle n'a pas de valeur. Non, notre foi a de la valeur. Mais cette foi n'est, cette foi n'est pas quelque chose que l'on reçoit et qui ne bouge pas. On parle parfois du muscle de la foi. Vous avez déjà entendu, le muscle de la foi. Moi, j'aime bien cette idée-là. Notre foi, elle évolue, car nous apprenons à connaître le caractère de Dieu. Notre foi, elle doit être exposée, confrontée à la vraie vie et aux réalités qui sont parfois difficiles dans ce monde. Et c'est là que l'on peut tester si notre muscle de foi résiste et grandit, ou bien si notre muscle, il diminue et puis finalement il s'atrophie. C'est au travers de l'épreuve. Alors j'aimerais vous encourager ce matin, comme Pierre a encouragé ces nouveaux chrétiens. C'est sûr, on ne choisit pas de passer par des moments d'affliction, d'épreuve, de tristesse. Mais alors que nous nous accrochons au Seigneur, alors que nous plaçons notre confiance en Jésus et que nos regards y restent vraiment fixés sur lui, notre foi va grandir. Notre foi va gagner en résistance. Notre foi ne sera plus une foi théorique ou de circonstance, mais elle deviendra éprouvée. Et ça a une immense valeur aux yeux de Dieu. Il y a même une récompense pour notre foi éprouvée. Pierre a dit au verset 7, nous l'avons lu ensemble, « Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Il parle d'une foi éprouvée. Peut-être que la crise que nous traversons mondialement est une affliction pour un temps, mais peut-être que c'est aussi l'occasion de faire grandir notre foi, de permettre à cette foi d'être éprouvée, de gagner en valeur, en profondeur et en qualité. On peut faire... Des fois, j'aimerais mieux faire comme si de rien. Puis en même temps, c'est sûr, je ne veux pas m'inquiéter plus que nécessaire. Mais par contre, je peux profiter de l'occasion de faire grandir ma foi. Alors, en parlant de la foi, si vous me donnez encore quelques instants, il est difficile pour moi de ne pas faire écho, de mentionner le chapitre 11 du livre aux Hébreux, parce que c'est le chapitre des héros de la foi, des témoins. Exactement, il y a des gens qui suivent, c'est merveilleux. Effectivement, des héros de la foi. Et puis, dans ce chapitre, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Verset 6. Et puis, bien sûr, notre foi, elle plaît à Dieu, notre foi éprouvée a de la valeur, et elle prouve sa résistance. Et puis, dans ce chapitre 11, il est fait mention, évidemment, d'Abraham. Abraham, il a eu quelques épreuves, n'est-ce pas ? Quelques-unes. Bon. Alors, on va juste lire Hébreux 11, 17, 19, où il est dit « Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. » Personne ne doit faire ça ce matin. Comprenez. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance. » Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Contradiction complète dans cette histoire où finalement Abraham a une promesse qu'une descendance viendra d'Isaac. Et puis en même temps, Dieu lui demande de sacrifier son fils, de le mettre sur l'autel, de lui offrir son fils comme un sacrifice. C'est complètement fou. Et puis, vous pouvez lire l'histoire, Abraham y va. Donc c'est évidemment l'extrême. Mais c'est intéressant de voir que la promesse était complètement contraire aux circonstances. Et sa foi était mise à l'épreuve. Et lui, il croyait tellement, il avait une foi tellement forte qu'il est dit... Il estimait que Dieu était assez puissant pour ressusciter un mort. Donc finalement, c'était pour lui pas une contradiction. C'est-à-dire, si Dieu me demande ça, puis qu'il m'a aussi dit qu'il y aura une promesse, je vais le faire parce qu'il est tout puissant, même pour ressusciter mon fils. C'est incroyable cette fois-là. Et puis quel est le résultat ? Ça, on lit dans Genèse 22, 12. Donc l'ange de l'Éternel qui est nul autre que Jésus, on parle de théophanie ou de christophanie, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même en fait qui se manifeste, qui n'était pas encore incarné. Et puis là, il va dire à Abraham, en Genèse 22, 12, « Maintenant, je sais que tu révères Dieu, je crois que je vous l'ai mis, maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu m'as pas refusé ton fils unique. » Et puis verset 16, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis, tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Une fois éprouvé, un résultat. Une foi éprouvée a une valeur. Il y a une récompense qui est là. Abraham a été à la fois témoin et bénéficiaire de ce résultat-là, de cette récompense. Une foi éprouvée. Avant de conclure, j'aimerais encore vous raconter un petit témoignage. Il y a maintenant 5 ans, j'apprends qu'un ami de 52 ans avec qui je collabore régulièrement, a fait un grave AVC. C'est un entrepreneur dynamique, et puis là, il est aux soins intensifs à Nyon. Alors je m'y rends rapidement, et puis là, je rencontre un homme vraiment lourdement touché. Il est paralysé du côté gauche, il peut quasiment plus parler, il ne maîtrise pas ses gestes, il faut le nourrir à la petite cuillère. Cet homme que je connais, je vais le voir, il est comme ça. Assis, comme ça. Du jour au lendemain, tout est chamboulé. Donc le chef d'entreprise, plein de succès, que je connaissais, n'est plus. Lorsque j'arrive, il y a son fils qui est là. Puis je vois la tristesse dans son regard. Tellement de questions. Hein. Pourquoi lui? Comment ça se fait? Mon papa, est-ce qu'il va retrouver quelque chose? Est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Des questions, des incompréhensions. Une famille chrétienne. Puis je le revois quelques semaines plus tard, il était transféré, il est au CHUV, vous savez, il y a la clinique Nestlé juste à côté, qui est justement pour réadapter suite à ce genre de choc. Et puis cette fois, c'est le début du marathon, donc pour retrouver un maximum de mobilité. Mais c'est vraiment un marathon. Et puis au fil de semaines, je vois cet ami se battre. Vraiment une résilience. Et puis parfois, il y avait de la frustration, du découragement, mais il voulait se battre. Des fois, il voulait tellement se battre qu'il allait même trop vite. Il a dit, mais maintenant, il faut que je marche. Et puis, il a même chuté. Puis, il s'est encore fracturé le col du fémur. Parce qu'il voulait. Mais c'est pas grave. Il s'est relevé. Il continue. Puis, jamais il se plaignait. Il était même plutôt... il remerciait le personnel médical pour les soins qui était prodigué. J'étais chaque fois ébahi. Et sa foi dans tout ça. Et sa foi. Elle ne l'a pas quitté, sa relation avec Dieu même, je peux dire, elle s'est renforcée. J'ai vu vraiment son intimité grandir. Il commençait à parler de ce qui se passait avec Dieu. C'était concret, c'était profond. Il en témoignait. Alors qu'avant, c'était un homme très discret par rapport à sa foi. Il disait, voilà, c'était... un chrétien, je dirais, protestant classique. Voilà, j'en parle pas. C'est privé, ma foi. Mais elle est là. Puis là, il commence à témoigner de sa foi. Quelque chose se passe. Après environ 8 mois d'hôpital, il peut rentrer progressivement chez lui. 8 mois. Des week-ends, puis toujours un peu plus longtemps. Puis là, il faut se réapproprier les lieux, imaginez. Il est toujours handicapé. Il faut réaménager la maison pour qu'il puisse venir aussi avec un fauteuil. Il retrouve sa famille, qui n'a pas changé, elle a dû continuer à vivre. Mais lui, il a vraiment changé. Il parle moins vite, il a toujours besoin d'aide, il marche vraiment pas vite. Mais il continue à se battre. Et puis, plus d'un an après son accident, il m'appelle, puis me dit, « Luc, je songe à me faire baptiser. » Voudrais-tu m'accompagner dans ce processus? J'étais tellement ému. Et là, on commence à... Vraiment, j'étais... Quoi ? Moi, mon souci, c'était qu'ils tiennent le coup. Mon souci, c'était qu'effectivement, sa foi tienne, résiste. Et non seulement elle a résisté, mais elle s'est tellement approfondie qu'il a dit, maintenant, je veux me réengager. Il avait été baptisé enfant dans une foi protestante, réformée. Là, il dit, non, j'ai vécu quelque chose. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans mon épreuve. Je veux me faire baptiser. Il n'y a rien d'autre qui semblait compter. Sa foi avait été éprouvée. Il avait vu le Seigneur agir dans l'épreuve. Alors, on a pu vivre ce baptême, entouré de sa famille, de ses amis. Et puis, ce fut vraiment un moment d'une immense valeur. C'était tellement profond de voir cet homme qu'il fallait soutenir puis une bonne carrure, je dirais plutôt 100 kilos que 70. Et puis, encore handicapé, qu'il fallait baptiser. Ça prenait un sens, c'était tellement fort. La foi éprouvée est plus précieuse que l'or. La foi éprouvée est une foi à toute épreuve qui tient jusqu'au bout, peu importe le prix. Et l'épreuve, elle révèle la qualité de notre foi. Alors bien sûr, on ne recherche pas l'épreuve. Je ne suis pas en train de vous dire... Ce serait bien que vous ayez des épreuves, puis je vais prier pour ça ce matin. Parce que vraiment, la foi éprouvée, c'est tellement mieux. Non, ce n'est pas ça. Mais on va tous y passer. On a tous des épreuves. Vous en avez déjà eu. Il y en a encore. Mais quand l'épreuve est là, considérez que votre foi ne sera plus la même. Dieu, aujourd'hui, ne considère pas ma foi de la même manière que celle d'Éric. Moi, je suis encore un petit ziquet. Ma foi, elle est encore parfois très théorique. Un petit ziquet, c'est un petit... Rien de tordu, c'est vaudois sûrement. Un petit, voilà. Petit, ma foi, voilà. Mais lui, parce qu'il a vécu quelque chose que je ne peux pas, même pas imaginer. Alors, dans nos épreuves, dans vos épreuves aujourd'hui, il n'y a pas de gradation, hein, c'est important. C'est-à-dire que quand on souffre, quand on a une épreuve, c'est votre épreuve, elle est là. Et puis, le Seigneur, il agit dans votre épreuve. Il ne fait pas, oh ouais, bon, ça, c'est pas si important. Non, il voit nos cœurs qui souffrent. Donc, il agit. Mais gardez la foi en Christ. Placez vos regards en lui. Je reviens encore à Hébreux 12, 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Donc même si des fois tout semble contraire aux promesses qu'il vous a données, je vous encourage à persévérer. Votre foi prend de la valeur, elle est étirée, mais elle gagne en résistance, elle devient forte. Et j'aimerais conclure encore avec ce verset. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vais juste prendre encore quelques instants, peut-être vous pouvez juste incliner vos têtes. Ce matin, là où vous êtes, si vous passez par l'épreuve, ou si l'un de vos proches passe par l'épreuve, j'aimerais vraiment vous inviter à faire le choix de la foi. Je choisis de continuer à faire confiance. Je choisis de continuer à croire en tes promesses. Même si mes circonstances sont contraires. Je veux faire le choix de la foi ce matin. Si quelqu'un est dans l'épreuve, ou si vous êtes là et vous avez un proche qui est dans l'épreuve, c'est difficile. Est-ce que ce matin vous êtes d'accord? Il n'y a personne qui regarde. Est-ce que vous êtes d'accord de dire oui? Oui à Jésus. Oui à Dieu. Oui, je veux tenir. Oui, je veux faire le choix de la foi. Est-ce que quelqu'un veut juste... Vous pouvez juste lever la main là où vous êtes. Comme signe, comme positionnement, dire oui, je choisis de faire confiance. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier pour que votre foi soit fortifiée. Que ce que vous vivez aujourd'hui porte un fruit éternel. Alléluia. Seigneur, merci pour ces mains qui se lèvent. Merci pour ces choix, ces positions. Seigneur, ensemble, on dit que nous désirons fixer nos regards sur toi. Nous croyons que c'est la foi qui triomphe. Alors Seigneur, viens maintenant fortifier les uns et les autres dans ce lieu qui traverse, qui passe par l'épreuve. Seigneur, merci parce que tu travailles les cœurs dans l'épreuve. Merci parce que tu vois avec un regard tout particulier ces moments où nous traversons l'épreuve. Et Seigneur, lorsque notre foi résiste, alors tu dis que c'est une foi qui est plus précieuse que l'or. Merci de faire grandir notre foi au travers de ces situations qu'on ne veut pas, on n'aimerait tellement pas les vivre. Mais Seigneur, elles sont là. Merci d'en faire quelque chose. Merci de renouveler la force et le courage des uns et des autres ce matin. Merci de renouveler notre confiance en toi. C'est parfois difficile quand on a l'impression d'avoir reçu une promesse et puis que nos circonstances ne vont pas dans le même sens. Mais Seigneur, on ne veut pas nos propres solutions, on veut continuer à marcher pour toi et avec toi. Manifeste-toi et que comme Eric, nous puissions sortir de l'épreuve avec un rayonnement différent, avec une envie de parler de toi, avec un désir de te suivre encore et encore, malgré les épreuves, Jésus. Merci parce que à tes yeux, notre foi a de la valeur. Amen.